Décryptage. Clotilde Dumais.
Un petit peu plus de 3 500 $, plus de 3 000 € pour une trentaine de grammes. Le prix de l'once d'or a battu un nouveau record la semaine dernière. Dans un contexte géopolitique et économique inquiétant et incertain, le métal précieux fait plus que jamais office de valeur refuge. Le cours de l'or ne fait qu'augmenter, il a plus que doublé en 5 ans. Quelles sont donc précisément les raisons de cette ruée vers l'or et jusqu'où peut-elle aller? Quel poids l'or a-t-il aujourd'hui dans le système économique mondial? Élément de réponse ce soir dans Décryptage.
C'est l'or, il est l'or, l'or de se réveiller, Monseigneur, il est 8 heures.
Il en manque une.
Vous êtes sort?
Tout à fait sort.
Oh, ça alors?
Un extrait de la Folie des Grandeurs, un film français pour ceux qui l'auront reconnu, avec Louis de Funès et Yves Montand. Vous le connaissiez, Anthony Busco, évidemment, j'imagine.
Évidemment, bonsoir.
Bonsoir, on va essayer effectivement de bien compter avec vous. Vous êtes responsable commercial chez Aucoffre, groupe d'achat, de vente et de stockage de métaux précieux. D'abord, vous, en ce qui vous concerne, est-ce que vous constatez effectivement, particulièrement ces dernières semaines, une augmentation de votre activité en lien avec l'or ?
Forcément, oui, on le constate. Alors, pas que depuis quelques semaines, depuis de nombreuses années maintenant, ça a commencé avec le Covid, puisqu'à l'époque, c'était une crise majeure qui a alerté pas mal de particuliers et qui les ont incités à acquérir de l'or. Puis par la suite, il y a eu aussi en 2022 la guerre en Ukraine et l'or se nourrit de toutes ces instabilités-là. Donc on le sent venir depuis quelques années maintenant et ça s'accélère de plus en plus effectivement.
On dit effectivement que l'or est une valeur refuge. Qu'est-ce que ça signifie en fait quand on parle de valeur refuge?
Alors, c'est relativement simple. L'or, c'est un actif qui va conserver sa valeur, voire même qui va en prendre avec des périodes de crise, que ce soit des crises économiques, géopolitiques, monétaires, financières, etc. Donc c'est vraiment ça qui fait office de valeur refuge, c'est principalement sa résilience face à l'ensemble de ces crises.
Et pourquoi on se tourne vers l'or et pas vers, je sais pas, un autre produit financier?
Alors, l'or est, mine de rien, une monnaie qui est utilisée depuis des milliers d'années maintenant. Son modèle est décentralisé, donc il n'y a pas d'institution, que ce soit financière ou gouvernementale, qui peuvent décider de sa direction. Le stock d'or mondial est limité. Donc on ne peut pas en imprimer, on ne peut pas en créer comme on voudrait. Et donc l'ensemble de ces facteurs font que l'or est une valeur refuge millénaire maintenant.
On va effectivement revenir sur le stock d'or, un petit peu savoir où il en est. Mais d'abord, donc, vous l'évoquiez, il y a eu le Covid, il y a eu la guerre en Ukraine. Là, ces dernières semaines, on constate donc encore de nouveaux records de l'or. On dit que c'est dû notamment au retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Est-ce que c'est vraiment le cas?
Alors, c'est l'une des raisons, mais pas la seule. Forcément, le retour de Donald Trump génère pas mal d'incertitudes sur les marchés, une certaine instabilité. On l'a vu il y a très peu de temps lorsqu'il a instauré les tarifs douaniers. Il y a eu des séances boursières qui ont été assez catastrophiques. Donc forcément, lorsqu'il y a des séances comme ça, les capitaux ont tendance à se diriger vers des valeurs refuges, l'or principalement, puisque c'est un actif qui reste extrêmement liquide.
Et ça a aussi été exacerbé lorsqu'il a aussi menacé, on va dire, le président de la Fed, la Banque centrale américaine, en tout cas menacé de peut-être limoger Jérôme Powell, le président.
Effectivement, il s'ingère pas mal dans l'activité économique des États-Unis, l'activité monétaire, notamment en mettant des petits coups de pression, si je puis me permettre, à Jérôme Powell, le président de la Fed. Donc, à voir ce que ça va donner, mais c'est vraiment pas la seule raison. Il y a aussi des raisons géopolitiques, notamment avec la guerre en Ukraine et les enjeux qui peuvent en découler. Et il y a cette dualité aussi avec la Chine. Donc forcément, il y a l'effet Trump, mais pas que.
On va y revenir dans un instant, Anthony Busco, mais d'abord, l'autre valeur refuge traditionnellement ces dernières années, depuis maintenant des dizaines d'années, c'est le dollar, c'est aussi la dette américaine. C'est donc en train de changer un petit peu, on investit moins aujourd'hui dans le dollar et dans cette dette des États-Unis ?
Oui, forcément, parce que le dollar, ces derniers temps, a tendance à perdre un petit peu de valeur, mais beaucoup de pays se sont aperçus au final que le dollar était un pouvoir de contrôle que les États-Unis avaient vis-à-vis de leurs réserves monétaires. Et ça, ça a été mis en évidence notamment avec la guerre en Ukraine, où les Américains ont gelé les avoirs de la Russie. Et donc des pays comme la Chine, encore une fois, ou même l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Turquie, se sont aperçus qu'en claquant des doigts et de manière unilatérale, les Américains étaient en mesure de bloquer les réserves de change en dollars. Le principe d'une valeur refuge, c'est de conserver de la valeur à travers les crises, mais c'est aussi de pouvoir être liquide et de pouvoir en disposer comme on le souhaiterait. Et donc forcément, ce type d'événements ont démontré que le dollar n'était pas si pertinent que ça en tant que valeur refuge.
Et pour rebondir effectivement sur ce que vous disiez, donc effectivement, avant même en fait le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, on a vu que certaines banques centrales augmentaient depuis quelques années maintenant leur achat d'or. Vous évoquiez notamment la Chine. Il y a une espèce de dédollarisation, comme on dit.
Absolument, oui. Oui, les banques centrales...
Ça concerne quel pays, principalement, donc en dehors de la Chine notamment ?
Alors, principalement la Chine, l'Inde aussi, et la Turquie, qui sont les trois principaux acheteurs d'or au niveau international. Pour donner quelques chiffres, les banques centrales ont acheté un peu plus de 1100 tonnes d'or en 2024, ce qui est énorme quand on sait que la production aurifère de l'or est d'environ 3300 tonnes. Donc il y a un tiers de ce qui est produit, de ce qui est extrait des mines chaque année, qui est à destination des banques centrales. Donc effectivement, il y a un vrai phénomène de dédollarisation qui est mis en place depuis quelques temps maintenant.
Alors là, on parle de pays peut-être un peu plus émergents, on va dire. Mais pour avoir un peu une idée des stocks d'or, et d'abord concernant les banques centrales, on rappelle quand même que celles qui détient le plus d'or encore à l'heure actuelle, ce sont les États-Unis.
Absolument.
Et ensuite, on a...
Alors, en tête, les États-Unis, effectivement, avec un peu plus de 8000 tonnes d'or, suivi par l'Allemagne avec 3300 tonnes d'or. Viennent ensuite l'Italie et la France qui sont aux alentours des 2400 tonnes d'or. Et après, on a la Russie et la Chine qui sont directement après autour de 2000 tonnes d'or. Mais la Chine est un gros producteur d'or et il y a des bruits de couloir qui circulent comme quoi elle aurait tendance à ne pas déclarer l'entièreté de son stock d'or, puisqu'elle est elle-même productrice d'or. Et donc, on soupçonnerait la Chine d'avoir des réserves d'or plus importantes que ce qui est aujourd'hui déclaré.
Et comment on peut expliquer, notamment quand effectivement on parlait de l'Allemagne, de l'Italie, de la France, donc des pays un peu européens qui se sont constitué ce stock il y a longtemps, du coup c'est...
Absolument. Alors, en l'occurrence, pour la France, c'est plusieurs centaines d'années d'histoire et d'existence qui lui ont permis d'accumuler ce stock d'or, qui a traversé de nombreux âges, de nombreuses crises aussi. Faut pas oublier que avant 1914, on pouvait payer avec de l'or en France, puisqu'il y avait le fameux franc Napoléon qui était utilisé comme un moyen de paiement, le 20 francs, qui sont toujours des pièces aujourd'hui dédiées à l'investissement. Et donc, oui, la France, de par ses colonies notamment, a accumulé un stock d'or à travers l'histoire, dont elle bénéficie toujours aujourd'hui, et qui lui permet d'avoir une certaine crédibilité aussi aux yeux des marchés financiers. Et c'est ce qui permet à ces États notamment d'emprunter et d'avoir une dette qui augmente chaque année.
Et c'est ce qui fait qu'effectivement, on ne vend pas vraiment, nous, ce stock d'or en France. On pourrait l'utiliser, on imagine, pour financer un certain nombre de politiques publiques.
Le gouvernement Sarkozy l'a fait il y a quelques années, à un cours qui était ridiculement faible par rapport à celui d'aujourd'hui. Donc, ce n'était pas forcément une excellente idée. Surtout, quand on voit à quoi ça a servi, c'est-à-dire pour acheter d'autres types de devises. Donc, à titre personnel, c'est pas que moi d'ailleurs, je pense que l'or pour un pays, pour une banque centrale, c'est sa crédibilité aux yeux du monde, aux yeux des marchés, et ça permet de lever de la dette et de financer des budgets. Donc voilà, cet or, ça serait dommage de le vendre pour financer budgets, alors qu'on peut le garder et financer une politique budgétaire via de la dette.
Il est 21h20 ici à Paris. La suite de ce décryptage sur la hausse du prix de l'or, toujours avec vous Anthony Busco. Je rappelle que vous êtes responsable commercial chez Au Coffre, donc groupe d'achat, de vente et de stockage de métaux précieux. Finalement, quand on voit effectivement que ces banques centrales accumulent autant d'or, on a un petit peu la sensation de revenir à ce qu'il y a eu presque un siècle maintenant, l'étalon or, donc c'est-à-dire un système dans lequel finalement l'or était un petit peu l'unité de compte de référence et les monnaies en fait étaient, la valeur des monnaies était définie donc par un certain poids d'or. Ça c'était ce qu'il y avait avant les deux guerres mondiales. Pourquoi, comment ça a évolué et pourquoi aujourd'hui c'est plus le cas?
Alors, historiquement, avant 1914, comme j'ai dit, toutes les monnaies étaient convertibles en or. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis, en grand vainqueur, ont décidé que seul le dollar serait convertible en or. C'est ce qu'on appelle les accords de Bretton Woods. En 1971, les États-Unis se sont aperçus que ça allait être compliqué de générer de la croissance avec une monnaie qui est adossée à de l'or. Et donc, il y a eu la fin des accords de Bretton Woods, ce qui a permis d'avoir une monnaie qui ne repose plus sur de l'or physique, mais qui peut s'échanger contre d'autres devises et qui se base principalement sur la confiance qu'on accorde aux États-Unis.
Et pourtant, donc avant même la fin de ces accords de Bretton Woods, le général de Gaulle, en 1965, appelait déjà à revenir à une forme d'étalon or. Je voudrais qu'on écoute.
Nous estimons nécessaire que les échanges internationaux soient établis comme c'était le cas avant les grands malheurs du monde, sur une base monétaire indiscutable et qui ne porte la marque d'aucun pays en particulier. Quelle base ? En vérité, on ne voit pas qu'il puisse y avoir réellement de critères, d'étalons autres que l'or.
Voilà, le général de Gaulle qui effectivement, lui, en 1965, voulait s'adosser à l'or. Pourquoi est-ce qu'on reviendrait pas, Anthony Busco, à cette forme de système? Est-ce que c'est parce que notamment les stocks d'or seraient limités? Enfin, quelles sont les raisons?
Totalement. En fait, la masse monétaire actuelle est tellement importante que on ne pourrait plus avoir des devises qui soient adossées à de l'or physique puisque les stocks d'or ne le permettraient pas. Et la mécanique aujourd'hui monétaire, c'est de lever de la dette de plus en plus, ce qui génère de l'inflation. Et cette inflation érode la valeur de la monnaie. Et la mécanique de l'or est totalement inverse. Donc on pourrait revenir à un étalon or. D'ailleurs, les pays des BRICS, donc le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, etc., l'Afrique du Sud, ont voulu mettre en place une monnaie commune qui serait adossée à de l'or. Le problème, c'est que chaque pays a des intérêts qui peuvent être différents, contradictoires avec d'autres nations, et donc tout le monde essaie de tirer un petit peu la couverture vers soi, et avoir une monnaie universelle adossée à de l'or ne le permettrait pas à chacun de tirer les profits qu'il aimerait en fonction de la puissance économique qui peut
peser. Ça permet pas d'ajuster sa politique monétaire,
c'est
on va dire.
Déjà, ça demanderait d'avoir des comptes justes, enfin d'avoir une certaine rigueur économique, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui quand on voit la France avec un déficit budgétaire assez important par rapport aux objectifs. Le fait d'avoir une monnaie qui soit adossée à de l'or ne permettrait pas ce genre de dérive monétaire. Donc je ne suis pas certain que ça serait profitable à l'économie telle qu'on la conçoit aujourd'hui, où il faut faire toujours plus de croissance. Malgré tout, ça serait peut-être la solution la plus sage, effectivement.
Puisqu'on parlait des stocks d'or, où est-ce qu'on en est actuellement dans le monde? Est-ce qu'on a une idée un petit peu du potentiel de réserve d'or qu'on pourrait encore avoir dans les mines?
Oui, alors l'être humain a extrait des mines jusqu'à présent 200 000 tonnes à peu près d'or. On estime les réserves à environ 50 000 tonnes d'or, mais ça devient de plus en plus coûteux d'extraire de l'or des mines, et donc forcément c'est ce qui soutient aussi de plus en plus le cours de l'or, c'est son coût d'extraction. Si on sait que extraire de l'or ça coûte tant, on ne peut pas avoir un cours qui est en dessous de cette valeur, puisque les sociétés minières n'auraient plus d'intérêt à extraire cet or.
Donc face à cette rareté qui va de fait, on va dire, augmenter, quel est aussi dans tout cela le rôle de la production industrielle et voilà de tout ce qui est produit en utilisant du matériel de l'or. Est-ce que là aussi ça a un rôle important dans le prix au final du matériau?
Oui, alors l'usage industriel de l'or, ça représente à peu près 10% de la demande annuelle. Donc on utilise l'or dans sur les produits technologiques, donc dans nos téléphones, on a un petit peu d'or. On l'utilise aussi en médecine, pour tout ce qui est prothèses, puisque c'est un métal qui ne s'oxyde pas, qui est très hygiénique. Mais c'est vraiment pas ça qui va soutenir son cours, ou en tout cas qui pourrait expliquer les hausses fulgurantes dernièrement. Ça va être principalement la demande qui provient des banques centrales pour l'or en tant que valeur refuge qui va soutenir son cours.
Et il y a quand même aussi la bijouterie, la joaillerie qui a quand même un poids toujours assez considérable, hein, basiquement.
Totalement. La joaillerie, c'est environ 45% de la demande d'or annuelle. Alors, ce n'est pas la joaillerie occidentale, on va dire. Ça va plutôt être des pays comme l'Inde ou la Chine où il y a une vraie culture du bijou, notamment pour la saison des mariages. En Inde, par exemple, c'est vraiment un facteur déterminant du cours de l'or. C'est qu'à une certaine période de l'année, il y a des mariages en Inde et donc tout le monde veut avoir de l'or pour offrir des bijoux aux mariés. Et parce qu'il y a cette dimension aussi culturelle du bijou en or comme un investissement dans ces pays-là, ce qui n'est pas trop le cas chez nous, puisque la fiscalité de l'or sur les bijoux n'est pas très avantageuse, contrairement aux pièces et lingots d'or. L'Inde et la Chine, effectivement, sont très consommateurs de bijoux en or.
Comment est-ce qu'on peut imaginer l'avenir maintenant, Anthony Busco? Est-ce qu'on peut se dire que le prix de l'or va continuer à augmenter, comme on le voit depuis ces dernières années? Ou est-ce qu'il y a quand même des facteurs qui pourraient un petit peu calmer cette inflation?
De mon point de vue, l'or ne peut qu'augmenter aujourd'hui. Alors, je n'ai pas de boule de cristal, hein, donc je ne vais pas prédire l'avenir. Par contre, si on suit la même logique monétaire, économique, l'or ne peut que prendre de la valeur, puisque c'est mécanique, en fait. L'or, on a un stock qui est défini, donc on ne peut pas en produire autant qu'on veut, alors que la monnaie, on est en train de faire l'inverse. On en imprime de plus en plus, on en injecte de plus en plus dans l'économie pour permettre une certaine croissance, et donc les deux sont opposés au final. Donc forcément, et puis il y a quelque chose que j'aime bien dire aussi aux clients qu'on a chez Aucoffre, c'est que c'est pas forcément l'or qui prend de la valeur, c'est surtout les monnaies fiduciaires qui, elles, en perdent au fil des ans, et notamment avec l'inflation. Donc si on regarde avec une pièce d'or, il y a 50 ans, on pouvait acheter la même chose que ce qu'on peut acheter aujourd'hui. Donc l'or n'est pas quelque chose qui rend riche, c'est quelque chose surtout qui conserve du pouvoir d'achat, qui préserve la valeur au fil des ans, et c'est comme ça qu'il faut le voir.
Donc, qu'est-ce qu'il faut faire actuellement? Il faut acheter? Il faut vendre?
Alors, l'idéal, ça aurait été d'en acheter il y a 10 ans, mais le vrai risque, effectivement, c'est pas d'acheter de l'or trop cher, c'est surtout de ne pas en avoir. Donc, j'invite effectivement ceux qui nous écoutent à se renseigner et en fonction de leur situation patrimoniale, voir si ça peut être pertinent d'acquérir de l'or. C'est un actif qui s'envisage plutôt sur le moyen-long terme. L'objectif, c'est pas de trader avec l'or, c'est d'en avoir et de le garder le plus longtemps possible, peut-être pour le faire perdurer dans la famille.
Et là, on parle de l'or, mais est-ce que les autres métaux précieux, je pense par exemple à l'argent, suivent un petit peu le même schéma ou pas forcément?
Alors, un petit peu moins pour l'argent, ça a toujours tendance à être corrélé à l'or, mais de moins en moins, on a ce qu'on appelle le ratio or-argent, donc la valeur de l'or exprimée en argent, qui, mine de rien, baisse d'année en année. À l'époque du bimétallisme, où on avait des pièces d'argent et des pièces d'or qui circulaient avec lesquelles on pouvait payer, on était sur un ratio autour de 15-16, puis on est monté, et aujourd'hui on est sur un ratio de 100. Donc la valeur de l'or par rapport à l'argent constitue un écart de 100 par rapport à 15 autrefois. Donc ça se décorrèle au fil des années. L'argent, c'est un métal qui est quand même beaucoup plus industriel. On l'utilise dans l'électronique, dans l'industrie du photovoltaïque. Donc forcément...
L'or reste différent.
L'or reste différent.
Merci beaucoup Anthony Busco. Je rappelle que vous êtes responsable commercial chez Aucoffre.